Bonjour.
Bonjour.
Désolé que vous allez être obligé d'endurer un barrage de français imprécis. Moi, je suis ici en France depuis 15 ans. Et c'est honteux un petit peu parce que je devrais parler mieux que je peux. Et aussi, même si je parlerai en anglais, j'ai un vrai anglais qui considère mon anglais pas très bon. Donc, je me dis oui, je suis désolé que ma femme, Déline, elle n'est pas avec moi. Moi, j'étais malade et elle a attrapé ce dont je me remets. Donc, peut-être la prochaine fois. Mais merci, Paul, pour cette belle occasion d'apporter la parole de Dieu et de partager son cœur avec vous tous. Je veux me présenter un petit peu plus pour que vous puissiez savoir d'où je viens. Je suis américain, je n'ai aucune arme. Et moi, en fait, je déteste McDo et Coca, donc je ne suis pas typique. Je suis typique parce que les Européens sont toujours mes amis. Toujours. Je n'ai jamais vous abandonné. Bref, on le fait comme ça. Mais je suis marié pendant 38 ans cette année. 38 ans et nous avons une fille unique qui fait le travail social comme une thérapeute au Texas aux États-Unis. Et aussi, on est dans le ministère ce mois pendant 33 ans. Donc, notre parcours nous a mené à Californie, Hong Kong, Bangladesh pendant 14 ans et ici en France. So, peut-être vous direz pourquoi vous avez quitté le Bangladesh pour venir en France. C'est assez longue histoire, mais je peux partager un petit peu. Notre appel comme missionnaire a commencé quand j'avais 9 ans et ma femme elle avait 8 ans. Et le même missionnaire est venu à nos églises, même si on habitait à 300 kilomètres à part. On s'est rencontrés à l'école biblique en sachant que le même missionnaire, à travers le ministère de le même missionnaire, nous étions appelés comme missionnaires au Bangladesh. Donc on est parti premièrement à Hong Kong et après Bangladesh, et on pensait qu'on resterait là depuis toute notre vie. Mais un jour en 2005, j'étais invité comme orateur pour un séminaire à Bruxelles. Et le sujet, c'était comment on peut atteindre des étudiants musulmans. Et dans ce séminaire-là, il y avait un homme français qui était prof de lycée à La Réunion. Mais il est venu de loin pour plus savoir comment je peux être effectué. Effectivement, je peux atteindre des musulmans. Et à la conclusion de notre cours, on a eu un moment de prière. On a prié l'un pour l'autre. Et il a prophétisé sur nous. Il a posé les mains et son prophétie c'était « Vous serez attrapés dans une toile d'araignée. » Ça serait un moment très très difficile et dangereux. Mais le Seigneur, il va vous libérer, protéger. Et cela sera suivi par les verts pâturages. Est-ce que vous avez déjà pensé, après avoir reçu une parole, que je veux prendre une moitié de la parole? Je n'aime pas les araignées, donc mais j'aime bien des pâturages. Mais on l'a reçu sans savoir qu'est-ce que ça voulait dire. Et nous sommes allés vers Paris pour amener notre fille à Disneyland Paris. Et ce soir-là, j'ai fait un rêve de la ville de Grenoble. Et moi, je ne connaissais pas Grenoble. Je n'ai jamais entendu ce nom. Mais dans ce rêve, je savais que j'étais dans cette ville. Et j'étais sur un balcon avec une jolie vue d'une rivière. Et la rivière est débordée. Il y a les gens qui se noyaient dans cette rivière en poussant un cri. Au secours, et moi, je ne pouvais rien faire. Et je suis très émouvé et je me suis réveillé. Et le Saint-Esprit parlait à mon cœur à ce moment-là. Tu vas quitter le Bangladesh pour venir à cette ville pour la deuxième partie de ton ministère. Et moi, je ne croyais pas. Parce que moi, je la considérais impossible d'avoir eux tellement profond un appel pour une nation de sens, 50 000 personnes, 1 million de personnes. Comment je peux quitter le pays de mon appel? On s'est rendu au Bangladesh et on avait un centre de formation pour des convertis d'islam, pour implanter des églises partout. Et encore un soir, j'ai fait un rêve. Et peut-être il semble que je rêve beaucoup, non? pas forcément. En fait, je bave plus que je rêve. Mais le Seigneur, il a utilisé à ce moment-là des rêves pour parler à mon cœur. Et j'ai rêvé d'un jeune homme qui faisait partie de notre centre de formation. Et on a pensé qu'il était converti, croyant. Mais quand je voyais ce jeune homme dans mon rêve, il s'est transformé. Il a eu une longue barbe avec les yeux très, très durs et très, très noirs. Il a changé complètement. Son nom était Shofik. Et encore, il s'est transformé en normal. Et je lui ai demandé, qu'est-ce qui se passe? Shofik, il m'a dit, quelqu'un essaie de te tuer. Et j'ai couru dans mon rêve, c'est très confusant. Et quand je me suis réveillé, j'ai décidé d'aller voir Shofik. Parce qu'il était absent pendant 2 semaines. Il nous a dit que son grand-père était malade à l'hôpital, au capital. Donc il a eu approbation pour lui rendre visite. Et il était en retard pour son retour. Il n'a pas répondu au texte ni aux appels. Donc, je suis allé au centre de formation et je frappais la porte et il n'a aucune réponse. Je savais qu'il est à l'intérieur, mais j'ai frappé. Et finalement, il a ouvert la porte et j'ai vu les mêmes yeux, durs. Et je l'ai demandé, Shofik, j'ai fait un rêve de toi et je ne savais pas ce que ça veut dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et il m'a dit, Marc, je ne suis pas ce que tu penses. En fait, j'étais envoyé ici par mon groupe d'Al-Qaïda pour infiltrer cette école. Et aujourd'hui, c'était le jour planifié pendant des mois où on planifiait de tuer tout le monde et détruire ce lieu. Mais il m'a dit que je ne pouvais pas le faire. Parce que après avoir passé quelques mois avec vous, je sais que vous n'êtes pas les ennemis d'Islam et que Jésus, il est réel. Amen. Et je veux quitter mon groupe et je veux suivre Jésus vraiment. Mais il nous a dit que j'ai besoin de votre de ton aide parce que personne ne peut juste quitter un groupe comme ça. Et on l'a protégé, on l'a investigué, son groupe est venu lui chercher. Mais on savait, c'était l'étoile d'araignée, que le Seigneur, dont le Seigneur nous a sauvés. Il a sauvé notre vie, il a sauvé la vie de Shofik, et Shofik suit Jésus même aujourd'hui. Et après avoir eu cette confirmation, ça a ouvert notre cœur pour croire que les rêves de direction de Dieu, c'est vrai, et on a eu le courage et la motivation pour émerger. Et nous sommes venus avec notre 10 valises pour dire, OK Seigneur, nous voici pour le prochain chapitre de notre aventure, pour obéir ta volonté. Et on est là depuis 15 ans pour préparer, équiper des jeunes missionnaires pour qu'ils soient mobilisés partout en France et en Europe. Et le Seigneur nous a amenés de faire le même, de répéter le processus ici, au coin de France, Belgique, et Luxembourg, parce que peut-être vous savez qu'il y a une difficulté pour prendre des visas de missionnaires maintenant. C'est annulé en Belgique, même ici. Donc il faut être employé, c'est compliqué. Donc c'est pourquoi on s'est positionné juste à la frontière, pour avoir la capacité d'accompagner les autres pour affranchir la frontière, pour trouver une solution, pour la capacité de rester longtemps là-bas. Donc voilà, c'est pourquoi je suis là. Mais maintenant, on va regarder la parole de Dieu, et peut-être je serai un peu trop soudé à mes notes, parce que même si vous n'avez que 10 doigts pour compter mes fautes, okay, mais je vais faire beaucoup plus que vous pouvez compter. Et merci après la prédication de ne me pas partager combien de chiffres. Mais j'espère que la doctrine, l'interprétation et l'application sera correcte. Amen. Ok, en Actes chapitre 11, verset 19, on lit de l'église d'Antioche. Antioche, c'est un exemple pour vous et moi. À partir de verset 19, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles de membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Donc, en tant que notre rôle de missionnaire en Asie du Sud, on a assisté à pas mal des mariages, des cérémonies de mariage. Et il existe une cérémonie importante parmi un ensemble des événements autour le mariage. Et cette cérémonie est appelée cérémonie de curcuma. De curcuma qui nous a interpellés parce que les mariés, lors des cérémonies séparées, il y a une pour l'époux, une pour l'épouse, sont assis sur une petite estrade. Tandis que un à un, les membres de la famille du futur époux viennent lui appliquer à la main une pâte jeune sur le pot et puissent lui offrir des sucreries à la main. Nourrir quelqu'un à la main, ça a quelque chose d'intime. Très intime, et ça peut nous rendre mal à l'aise en fait. Être touché par la main de quelqu'un peut être rassurant, étonnant ou inconfortable. C'est pourtant ce que suggère le fait d'agir avec les mains. Donner quelque chose à quelqu'un de la main, ça c'est à faire personnellement, en face à face. Être main dans les mains est une image d'unité. Si vous chercherez l'image de l'unité sur Google, vous êtes sûr de trouver une image de main à main pour démontrer. Le combat au corps à corps est un affrontement très rapproché. Et dans notre texte, nous voyons l'église d'Antioche qui, plus que probablement toute autre église du Nouveau Testament, nous est présentée comme un modèle. C'est là que Paul et Barnabas ont découvert ce qu'était l'église, afin de pouvoir répandre et implanter ce qu'ils avaient vécu et expérimenté partout dans le monde. L'église d'Antioche était saine, multiculturelle, généreuse, spirituelle, avec un leadership solide, résolument missionnaire. Et notre texte ce matin nous décrit deux choses à propos de cette église en tant qu'un exemple. Ils étaient un rassemblement de peuple de Dieu qui expérimentait la présence de Dieu. Ça qui signifie la main de Dieu était avec eux. Et aussi, ils étaient encouragés de rester fidèles au Seigneur de tout leur cœur. Lors de notre séjour à Hong Kong, nous avons vu des temples différents, des temples hindous, bouddhistes, sikhs, et aussi des cathédrales, des mosquées, des églises évangéliques. Et si je serais un non-croyant, un étranger qui regarde tous les lieux de culte, dans mon avis, dans ma vue, c'est quoi qui distingue une église à l'autre ou un lieu de culte à l'autre? Si une parmi eux attestait que Dieu est, la présence de Dieu est parmi eux, le Dieu dont ils parlent, il est effectivement présent dans leurs assemblées, c'est cela et seul qui distingue l'Église de Jésus-Christ de toutes les autres assemblées religieuses, surtout aux yeux des non-croyants. Chaque personne est en quête de quelque chose. Pour certains, il est la stabilité, peut-être ils cherchent un copain, le confort, le sens de la vie, la qualité de vie, la capacité de se transformer. Mais ce dont ils cherchent, c'est ce que nous pouvons les offrir, parce que c'est le vrai pouvoir de changer, d'expérimenter quelqu'un qui peut combler leur âme. Et ma question ce matin, c'est que, est-ce là que nous cherchons? Est-ce là que nous désirons ardemment? Parce que ces deux grandes ambitions faisant partie de la vie communale de l'église d'Antioche, c'est qu'ils étaient bénis, ils ont grandi, ils ont expérimenté la présence miraculeuse de Dieu parce qu'ils ont manifesté un cœur pour chercher sa main et pour chercher avec tout le cœur, le cœur de Dieu. Donc, premièrement, pour nous ce matin, si nous aspirons à être un peuple comme Antioche, nous devons chercher la main de Dieu. Verset 21. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. La main du Seigneur. Ça signifie la présence ou sa capacité. Ce mot est traduit du grec original kyra, de façon figurée l'instrument qu'une personne utilise pour accomplir son plan ou son but. La présence de Dieu est symbolisée par sa main. Et nous ne savons pas vraiment ce que tout cela signifie. La main de Dieu était avec eux. Mais on sait qu'il y avait des prodiges, des miracles, les choses qui a suscité un réveil, qui a attiré les gens parce qu'ils ont grandi. Et la question pour nous est comment nous pouvons être une Antioche où l'on peut dire la même chose. Est-il évident que la main de Dieu est avec nous? On a prié pour les malades bientôt et c'est vraiment de donner une opportunité de laisser la place au Seigneur, le Saint-Esprit, de bouger et de toucher les gens. On ne peut rien faire, mais on peut avoir la foi et aussi l'opportunité donnée au Seigneur pour faire ces miracles. Beaucoup de fois dans l'Évangile, quand la main de Jésus est mentionnée, il se passe presque toujours quelque chose d'incroyable. Alors si nous avons la main de Dieu parmi nous, ça signifie que des choses incroyables arriveront parmi nous. Et en examinant plusieurs exemples de personnes touchées par la main de Jésus, nous pouvons apprendre comment nous aussi peut être ressentir la main de Dieu parmi nous. Le premier, c'est dans Matthieu chapitre 8, verset 1. Jésus a touché un lépreux. Il dit, soudainement, un homme atteint de la lèpre approcha Jésus. Et premièrement, c'est contraire à toutes les règles d'hygiène et de coutume de l'époque. Les lépreux devaient rester isolés à distance de tout le monde, suffisamment sûr pour ne pas propager la maladie. Et cet homme a dû prendre le courage, traverser la foule, gagner et planifier en avance. Ce lépreux a ignoré les cris, les reproches, les regards de désapprobation afin d'interpeller Jésus alors qu'il descendait de la montagne. Et je pense qu'il se disait, voilà mon opportunité. Il faut que je le saisisse. Jésus est là et moi, j'ai le besoin. Et malgré les interdictions, j'allais tout droit vers Jésus jusqu'au bout pour que je serai guéri. Ça, c'était son attitude. En Matthieu chapitre 9, Jésus touche le cadavre d'une jeune fille. Un leader juif vient voir Jésus et lui dit, « Ma fille vient de mourir, mais si tu viens et étends ta main sur elle, elle vivra. » C'est beaucoup de foi sur la main de Jésus, n'est-ce pas? Pour dire, « Oui, elle est morte, mais si tu la touches avec ta main la ramènera à la vie. » Et c'est ce que Jésus fait. Il va à la maison du leader et il dit en verset 23, « Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef, il vit les joueurs des flûtes et de la foule bruyante et il leur dit, « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui. On a déjà expérimenté les moqueries ici dans cette société. Ce que manifeste la foi en Dieu, la foi en Jésus, on expérimente même les accusations d'être nul et pas très intelligent. Et globalement, les peuples Jésus dit au peuple, je vais défier la science et la raison. Et cette chose, la mort, final et indéniable, je vais le défaire. Et ils se sont moqués de lui. Ce monde, si ce monde se moque de nous, il faut que nous avions l'audace de croire que Dieu est un Dieu plus grand que les lois de la nature. Mais si nous voulons voir la main de Dieu, la preuve de sa réalité parmi nous, nous devons surmonter les moqueries et le ridicule pour exercer notre foi en lui. Verset 25. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille et la jeune fille se leva. La main de Jésus parmi ces gens a réalisé un puissant miracle qui a défié la logique, qui a réduit les moqueurs au silence. Et si nous voulons faire taire des critiques ou répondre aux sceptiques, à la place de rechercher les paroles sages ou d'étudier l'apologétique, c'est bon tout ça. Mais enfin, il vaudrait mieux de se focaliser sur la puissance miraculeuse de Dieu promis après la proclamation de l'Évangile.
Amen.
Ça, c'est notre espoir. En Matthieu chapitre 12, Jésus touche un homme avec une main paralysée. Un homme avec une main morte, il dit. Il était dans la synagogue. Plus sensibilisé. Peut-être son extérieur était juste une manifestation de la condition de l'intérieur. Parfois, pour nous aussi, notre plus grande affliction n'est pas de ressentir de la douleur, mais peut-être pour notre génération, peut-être c'est plutôt de ne rien ressentir. Parce que l'insensibilité, c'est quelque chose qui afflige notre société. Et ils cherchent la façon de se combler, de se libérer d'un manque d'espoir, de chercher quelque chose éphémère et transcendant. Et Jésus lui a demandé d'étendre sa main. Et il a été guéri. Donc pensons à ces trois mains. Une main malade, une main morte, une main déformée. Et qu'est-ce qu'elles avaient en commun? Ces mains désespérées, impures et imparfaites se sont tendues. En prenant un grand risque, avec beaucoup d'efforts, de façon désespérée, et ils ont ressenti la main de Jésus qui, en retour, s'est tendue vers eux. C'est pourquoi cette photo à l'écran est si puissant pour tout le monde. La photo de le peintre trouvé à la chapelle Sistine, parce qu'elle représente ce dont on a besoin pour ressentir et expérimenter la main de Dieu qui fait disparaître les maladies du peau et du cœur, qui efface la lèpre et les addictions, qui rétablit les corps et les âmes brisées. Mais cela nous montre aussi comment nous pouvons être un peuple comme d'Antioche. La première étape, c'est que nous devons être bien disposés à étendre la main et confesser notre besoin. Ça, c'est la clé. À cause de mon orgueil, ma réticence, ma honte, je ne suis pas vraiment bien disposé de confesser mes besoins. Parce que ça requiert de sortir de ma capacité, d'avoir la confiance sur moi-même. Il faut confesser notre besoin. Est-ce que je suis assez dans le besoin? Est-ce que je suis suffisamment fatigué pour supporter ma condition, ma difficulté, peut-être isolé, mort à l'intérieur, brisé par les circonstances de ma vie? Des choses qui gangrènent mes pensées, qui ont volé ma paix depuis des années. La honte et la peur qui m'hantent chaque jour. Nous tous sommes affligés, peut-être pas forcément par les maladies physiques, mais les maladies qui se manifestent à l'intérieur. Et si on étend notre main à Jésus, et faire retour le même. Et si on est touché par la main de Jésus, il y a des miracles et des réponses, des choses dont on cherche. Je peux raconter une petite histoire de quand j'étais pasteur de jeunes à Hong Kong. On a eu une retraite. Et après la prédication, j'ai invité tous ceux qui voulaient expérimenter la touche de Jésus pour être sauvés, pardonnés, guéris. Et une jeune appelée Doris, elle est venue au devant. Et en demandant ce qu'est-ce qui se passe, quel est le problème, la difficulté, elle m'a décrit son histoire depuis des années. Elle était a subi à la polyarthrite rhumatoïde. Elle avait beaucoup de douleurs chaque jour, tout le temps. Elle a déjà demandé au Seigneur plusieurs fois d'être guérie. Elle a déjà approché les autres, les croyants, pour poser les mains et pour prier pour elle. Et elle m'a confessé de ne pas avoir le désir presque de venir au devant à cause de ça, mais elle a décidé, ok, encore une fois. Et quand j'ai posé mes mains sur les siennes, moi j'ai ressenti deux choses. La compassion de Dieu. Je me mis à pleurer parce que j'ai ressenti même le cœur de Dieu pour observer sa souffrance depuis des années. Et aussi, je me suis ressenti une chaleur qui a traversé entre mes mains jusqu'à les siennes. Et moi, j'étais convaincu qu'elle est guérie. Mais après avoir prié, nous les deux, on est partis déçus parce qu'elle n'était pas guérie. Sauf que le lendemain, elle était dans sa chambre avec ses locataires. Elle s'est réveillée et commençait à bouger les doigts comme ça. Elle a poussé un cri qui s'est réveillé tous les locataires. Je suis guéri, je suis guéri. Et la douleur est partie. Et le Seigneur l'a guérie parce que elle avait la volonté de venir encore une fois pour être touchée par, c'est pas par mes mains, c'est la main du Seigneur l'a touchée à travers de moi. Elle était guérie. Il était guéri. So, deuxièmement, pour conclure, pour que nous soyons en Antioche, nous devons chercher le cœur de Dieu. Verset 23. À son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il en éprouva de la joie. Il les encourageait tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme. Ça, c'est quelque chose pour traduire, pour rester attaché, c'est le mot grec, c'est prosmeno. Ça veut dire, ça signifie se cramponner à quelqu'un ou à quelque chose. Être attaché à quelqu'un ou à quelque chose. Rester attaché. Et donc, il signifie aussi rester plus longtemps. Rester plus longtemps. Nous pouvons voir ce verbe en action dans l'histoire où Jésus a nourri 4000 personnes qui se sont réunies pour entendre son enseignement. En Matthieu chapitre 15, verset 33. Voilà trois jours qu'ils sont près de moi. C'est le même mot, prosmeno, attaché. Le même mot grec que rester attaché. Ils sont près de moi. Et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeûne. Passons à la foule et à ce que Jésus ressentait à leur sujet et comment il voulait agir pour eux. Ces gens sont près de moi. Restez. C'est le mot utilisé pour caractériser ce que Antioche est appelé à faire. Et Jésus disait, ils se sont cramponnés à moi et à mes moindres paroles. Ils sont restés avec moi pendant trois jours, en bravant la chaleur et les éléments. Et quand ils sont venus, ils n'avaient pas prévu. Il n'a pas prévu de rester si longtemps. Et je veux leur donner à manger. Et il ne s'est pas contenté de leur donner un goûter. Il était tellement rassasié. Ça, c'est difficile, hein? Qu'il restait des paniers de pain entiers parce que tout le monde était calé. Ici, on cherche notre Dieu avec tout notre cœur. Il peut combler tout en nous. Tout. Mais le problème pour moi, c'est que je ne reste pas avec lui aussi longtemps dans la prière que je devrais. Ça, c'est ma problème. J'ai des autres qui peuvent confesser. Je veux être un homme de prière, mais pour moi, je deviens agité, distrait. Et la clé pour savoir pourquoi on ne demeure pas, c'est de se rendre compte pourquoi on l'abandonne trop vite et de laisser l'Éternel sonder nos cœurs. Seigneur, sondez mon cœur pour que je puisse me comprendre mieux. J'ai passé un moment dans ma vie il y a 10 ans, quand j'avais des problèmes avec mes relations et j'ai fait des bêtises et j'étais très très déçu. Et moi, je suis allé vers un thérapeute chrétien qui m'a accompagné pour un parcours pour examiner ma passé. Et il m'a encouragé de se concentrer sur la relation avec mon père. Parce que mon père et moi, on a enlevé une relation très compliquée. Il n'était pas montré l'affection de ses parents. Et c'était le même pour moi. Même si j'aime mon père, et il est avec Jésus maintenant. Même si j'aime mon père, il ne m'a pas montré comment avoir une relation profonde avec lui et avec les autres. Et moi, je me suis senti un peu déformé et pas développé parce que je ne pouvais pas affranchir une limite pour avancer dans mes relations, même avec ma femme. Et un jour, j'étais encouragé d'écrire une lettre à mon père qui était mort depuis des années. Je ne cherchais pas la pardonne. J'ai essayé de sonder mon cœur. Et quand je m'ai mis pour écrire, j'étais surprenant pour ce qui a sorti de mon cœur. Et ça, c'est le commencement d'une guérison de mon cœur pour que je puisse savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi, pour que je puisse chercher Dieu de tout mon cœur. Il n'a rien caché. Tout était exposé et maintenant je pouvais expérimenter encore plus avec Dieu. Nous avons besoin que nos cœurs soient guéris pour croire que l'on a de la valeur. Parce que moi, j'ai pensé que je n'ai pas vaut la peine pour les autres de m'approcher, de poursuivre une relation avec moi, parce que je n'ai jamais expérimenté avec mon père. Lorsque je songe de Dieu, quand je me lance en prière, quand je m'engage spirituellement avec lui, nous avons besoin que nos cœurs soient guéris pour croire que Dieu voulait aller plus profond avec nous. J'avais besoin de demeurer pour qu'il me guide, comme mon père ne l'a jamais fait, parce que pour mon père, il ne savait pas comment faire. Il ne m'enseignait comment aller plus profond. Engageons-nous à être des hommes et des femmes de prière. Dans ce processus, nous pourrons apprendre comment chacun de nous a besoin d'aller plus loin en relation avec lui. Nous pourrons apprendre à demeurer plus longtemps en sa présence, plus longtemps que prévu. Moi, chaque jour, j'ai mon temps intime avec Dieu. Mais je planifie une petite demi-heure, une heure. Et combien de fois je reste avec lui plus longtemps que j'ai planifié. Ça, ça veut dire rester attaché au Seigneur. Et toute la journée, la longue journée, je peux rester attaché à lui. en entendant sa voix, être sensible à sa direction. Ça, c'est ce qu'on peut faire. C'est pour conclure, nous pouvons être une Antioche, des hommes et des femmes qui vivent la main de Dieu parmi nous. Et cela nécessite de tendre les bras. Et sa main répond à nos mains étendues. N'inquiétez pas si vous ressentez que votre main est malade, morte, désespérée, détachée, déformée. Comme les gens dans l'histoire de Jésus, on peut s'encourager à apprendre ensemble comment nous pouvons rester avec lui. Et vous pouvez ce matin prendre l'engagement de sonder ses mains et son cœur cette semaine. Vous pouvez vous engager à patienter dans sa présence et dévouer encore plus de temps pour exprimer le désir de nos cœurs, c'est de lui connaître, de mieux connaître notre Sauveur. Et pour qu'il peut avoir accès à nos cœurs et sonder nos cœurs pour révéler à nous qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui nous empêche, qu'est-ce qui nous afflige, qu'est-ce qui nous embête pour aller plus loin avec lui. Et il peut le faire, le Saint-Esprit, il a la sagesse, il a la façon de nous communiquer. Il peut le faire pour qu'on puisse devenir encore plus un peuple comme les peuples de l'Église d'Antioche.